Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui êtes sur le point d'emboîter le pas derrière Rousseau, que nous suivons depuis lundi au cours de ses promenades philosophiques. Enfin, philosophiques mais pas forcément au sens où il l'entend. Lui préfère parler de rêverie. Et comme il se promène seul, son texte s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Et il paraît après la mort du philosophe en 1778. Bonjour Céline Spector.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes une rousseauiste aguerrie, vous êtes souvent venue en parler à ce micro en tout cas. Aujourd'hui, vous allez nous conduire le long des 5e, 6e et 7e promenades de ce texte, donc les rêveries. Ce sont les plus belles du recueil, non ?
Elles sont magnifiques en effet.
Bon, nous sommes d'accord sur ce point. En route sur les chemins de la philosophie, à la recherche d'un cœur en or. Comme Neil Young qui cherche un cœur d'or, Rousseau lui aussi passe sa vie à chercher un cœur pur, un cœur fait d'un certain... Un cœur, quel lapsus, un cœur fait d'un certain métal précieux, innocent sans doute. En tout cas, Rousseau, comme Neil Young dans cette chanson, a vraiment vieilli dans ce texte. Céline Spector, on le comprend dès les premières lignes.
Oui, absolument. Rousseau est au seuil de sa mort. Hein. Il se sait vieux, il écrit dans l'horizon d'une mort imminente. Et cela produit de multiples effets. Notamment une forme d'époque ou de réduction, de mise entre parenthèses du monde extérieur. Alors c'est à la fois la mort sociale et l'approche de la mort réelle qui conduit Rousseau à reconsidérer sa vie autrement qu'il ne l'avait fait. Donc du point de vue, disons, du rapport aux autres textes que l'on dit autobiographiques, comme les confessions ou les dialogues, il y a une véritable mutation, un changement très profond, puisqu'ici Rousseau ne veut plus se justifier face au public, il ne veut plus en quelque sorte prouver son innocence, il ne veut plus démontrer qu'il a raison et que tous ses ennemis ont tort, il ne veut plus se blanchir, y compris face à la postérité. Ce qu'il veut faire est différent, il veut jouir en paix de son innocence. Et en un sens, la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire une situation d'ostracisme, de persécution, d'exil, cette situation extraordinaire qui aboutit à la mort sociale le libère d'une certaine manière et lui permet de jouir en paix de son innocence malgré la haine des autres et sans plus vouloir se justifier à leurs yeux. Raison pour laquelle il n'écrit, dit-il, que pour lui, contrairement à Montaigne qui avait fait la même entreprise mais pour autrui.
Innocence dont il ne doute pas, c'est ça qui est intéressant.
Oui, alors innocence dont il ne doute pas. Alors dans les rêveries, les choses vont se préciser un peu, puisque Rousseau va nous dire qu'en réalité, il n'est pas vertueux. Et en un sens, il ne l'a jamais été réellement, il n'est que bon. Et comme on le sait, chez Rousseau, les deux concepts sont très différents. La bonté relève d'une inclination spontanée, d'une inclination naturelle, du penchant. Tandis que la vertu suppose un effort, un combat, une forme de force d'âme, dont Rousseau se dit dépourvu. Donc en un sens, il faut bien comprendre que l'innocence, c'est quand même pas l'acmé de la vie morale. Et Rousseau n'aura de cesse de dire ici que... Finalement, sa vie morale désormais se réduit à ne pas agir, à s'abstenir d'agir, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être.
Et le conduit à jouir. Le terme de jouissance revient de nombreuses reprises dans ce texte, et en particulier dans les promenades qui vont nous accompagner aujourd'hui. La cinquième promenade commence avec la description de son séjour au sein de l'île de Saint-Pierre. Comment est-il arrivé là ?
Alors, disons, l'histoire est très complexe, mais le dernier épisode de son exil et de sa persécution date de ce qu'on appelle la lapidation de Mautier. Donc, dans la principauté de Neuchâtel, sa maison a été, bombardée de pierres. Et ce moment de persécution intense l'a conduit à fuir et à s'exiler sur une île, cette île sur le lac de Bienne, où il se trouve finalement en sécurité, dans un exil, dans cet état d'insularité. Qui lui procure un sentiment de sécurité, fût-il précaire. En tout cas, c'est la manière dont il le décrit dans les rêveries, car en réalité, l'épisode tel qu'il est décrit dans les Confessions est un peu différent. Au livre 12 des Confessions, Rousseau évoqua le même épisode, mais en insistant davantage sur l'inquiétude, sur une tonalité affective très inquiète, avec l'idée selon laquelle, finalement, cet exil n'est que provisoire et précaire. Il va être expulsé, il le sent, il le sait. Et donc, cette inquiétude le prive d'une véritable jouissance. Tandis que dans les rêveries, où par ailleurs, on l'a souvent remarqué, finalement, l'île se dépeuple, elle n'est plus peuplée, il y est véritablement solitaire avec le receveur et sa famille. Disons que dans les rêveries, Rousseau se sent véritablement en sûreté sur l'île. Il y a un sentiment de sécurité qui est lié au nouveau rapport qu'il établit avec la nature et au fait qu'il assume ce qu'il appelle ce contrat social unanime en vertu duquel il a été expulsé, exclu de la société des hommes. Et donc, en un sens, en assumant ce repli, cette retraite, ce recueillement, il se sent plus en sûreté que ce qu'il décrivait dans les Confessions.
Ce qui donne lieu à des pages absolument sublimes qui décrivent non seulement son séjour sur l'île de Saint-Pierre, mais aussi ses promenades, cette fois-ci au sein d'une barque où il se laisse voguer au gré du flux et du reflux du lac sur lequel la barque se trouve. Écoutez cet extrait de la cinquième promenade qui non seulement décrit la façon qu'a Rousseau de se laisser aller à la rêverie, mais laisse aussi entendre qu'une certaine prise de conscience s'opère à ce moment-là. Et donc il y a vraiment une dimension, en plus d'une dimension poétique, une dimension philosophique à ce texte. Écoutez.
Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. De temps à autre, naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins marquer sa durée, et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation, ni de jouissance, de plaisir, ni de peine, de désir, ni de crainte, que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation? de rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes, agités de passions continuelles, connaissent peu cet état et, ne l'ayant goûté qu'imparfaitement durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme.
Rousseau, le philosophe persécuté, la victime de la société, celui qui souffre de ne pas être aimé, celui qui s'est fâché avec tous ses amis, connaît donc le bonheur, et ce bonheur porte un nom, en tout cas une origine, Céline Spector, c'est ce qu'il nomme le sentiment de l'existence.
Oui, alors il s'agit sans doute d'un des concepts les plus puissants et les plus originaux de la philosophie de Rousseau, et y compris de sa philosophie tardive, hein, puisque Les Rêveries sont sa dernière œuvre, et c'est l'œuvre dans laquelle ce sentiment d'existence, dont il parlait déjà auparavant, se voit le mieux décrit. C'est en un sens l'accomplissement de sa philosophie, disons, du sentiment. Alors, il y a énormément de choses à dire sur ce chef-d'œuvre de la littérature qui vient d'être lu.
Brillamment interprété par Georges Auclasse.
Absolument. Alors, disons que je voudrais simplement dire deux ou trois choses. Le fait que Rousseau se laisse aller, se laisse dériver sur une barque ou reste sur le bord, sur la rive, hein, et écoute le flux et le reflux de l'eau, lui donne, disons, l'occasion de laisser sa rêverie se propager, divaguer, mais au rythme de l'eau et au rythme du bruit de l'eau. Et c'est quelque chose qui a été très bien montré notamment par un commentateur, André Charac. Au fond, la rêverie est un rythme. C'est-à-dire que ce que Rousseau décrit, hein, les conditions de la rêverie, c'est un mouvement modéré, un mouvement continu qui ne suppose ni saute, ni rupture, ni intervalle, qui en quelque sorte berce le corps et permet à l'âme, disons, de se retrouver, en un sens, de se recueillir. Alors, il ne s'agit pas d'une extase vers l'amour de Dieu, il s'agit plutôt d'un recentrement sur l'amour de soi. Et Rousseau, au moment des rêveries, a su se délivrer, dit-il, de l'amour propre, hein, et qui le poursuivait encore, hein, dans ses précédentes œuvres. Il se dit simplement recentré sur l'amour de soi, et c'est là qu'il peut jouir de lui-même et de l'auto-affection qui est la sienne, de cette affection primitive qu'est le sentiment d'existence. Alors, bon, je disais, c'est un sentiment original. Il y a des gens qui ont parlé du sentiment de l'existence avant Rousseau. Malebranche parle du sentiment intérieur de l'existence. On pourrait citer aussi Buffier, hein, dans son cours de science. Mais en fait, cela n'a rien à voir avec ce que dit Rousseau. Mmh. Car Rousseau ne parle ni comme Buffier des premières vérités des sciences qui nous seraient ainsi accessibles, ni comme Malebranche de la connaissance immédiate que l'âme a d'elle-même et de ses modifications, qui d'ailleurs ne lui dit rien de sa nature. Ce que Rousseau entrevoit avec le sentiment d'existence, c'est une forme de bonheur, de plénitude, de jouissance de soi, qui est liée au fait que l'individu se concentre sur le présent grâce au rythme extérieur qui lui est impulsé. Donc il y a un mouvement un peu contradictoire, semble-t-il.
Et surtout qui établit un lien entre le moi et le monde, après
alors,
ce que vous dites.
Il y a un lien, mais ce lien est d'une nature très spéciale. Car en réalité, Rousseau nous dit, et ce sont les conditions de possibilité de cette rêverie extatique, que ses facultés sont en quelque sorte vieillies, presque périmées. Il n'a plus vraiment beaucoup de mémoire, il n'a surtout plus de jugement, plus de raisonnement.
Plus d'imagination non plus.
Toutes ses facultés se sont exténuées. Et au fond, la rêverie est ce qui lui convient le mieux à cet âge de sa vie. Alors, le risque de la rêverie, néanmoins, c'est qu'elle revienne de manière obsessionnelle sur les maux, les persécutions, la méchanceté des hommes, le complot universel dont Rousseau se dit victime. Et donc, il faut plutôt que cette rêverie sache, en quelque sorte, trouver un objet qui peut être la nature, on y reviendra, mais qui peut être aussi tout simplement le rythme du moi lui-même, qui finalement se sent lui-même, sent son affection primitive et jouit d'un bonheur qui dure. Ce que Rousseau décrit, c'est quelque chose que la philosophie a toujours recherché dans les arts de vivre et les arts de jouir, une forme de sagesse depuis l'Antiquité. Il s'agit finalement d'une forme de plénitude du bonheur. Rousseau nous dit qu'elle n'est pas privation, elle n'est pas manque, elle n'est ni plaisir ni peine. Alors qu'est-elle cette jouissance? Finalement, c'est une jouissance de l'autosuffisance. C'est une jouissance où il ne manque rien. Et c'est pour ça que Rousseau la décrit comme une plénitude inouïe qui n'a rien à voir avec les impressions sensuelles du monde ou avec le plaisir de la réflexion et de la pensée.
Non, mais d'ailleurs, elle se situe à l'articulation entre les deux, sans doute entre la pensée d'un côté et la sensualité ou la sensorialité de l'autre.
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en un sens, Rousseau nous dit que cette jouissance de soi, la jouissance du sentiment d'existence, ne peut avoir lieu que si on ne pense pas. Si on s'épargne la peine de penser. Donc, il ne s'agit pas d'une jouissance réflexive.
Non, mais pour écrire ces lignes, il faut quand même être un petit peu conscient.
Alors, dans le souvenir et dans l'écriture, se remémore la douceur de la rêverie et son charme, bien sûr, on peut, disons, faire agir une certaine forme de réflexion. Mais Rousseau insiste sur le fait que la réflexion tuerait le plaisir. Et au fond, il faut que la raison, l'entendement analytique soit mis entre parenthèses pour que cette jouissance puisse advenir. Et de même, il faut que la sensorialité ne soit pas trop éveillée. Elle est simplement bercée par un mouvement monotone, répétitif, qui n'annonce pas l'éveil de l'attention. Et c'est dans cet état qui n'est pas trop vif que le sujet peut jouir de sa subjectivité.
Mais ça veut dire que le sentiment de l'existence, tel que Rousseau le désigne avec cette expression, il est assez difficile de voir ce qu'il désigne vraiment d'ailleurs, à moins d'avoir fait soi-même l'expérience de ce sentiment de l'existence. Est-ce que c'est le plaisir d'être en vie? Est-ce que c'est la certitude d'être en vie? Ça veut dire que pour Rousseau, ce sentiment n'est pas neutre, qu'il est la condition d'un certain bonheur. Parce qu'à constat égal, on pourrait très bien vivre la même expérience comme une tragédie. Je me rends compte, je sens que j'existe et je trouve ça insupportable. Non, pour lui, c'est source de bonheur.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, Rousseau a essayé de réfuter dans sa vie un Maupertuis qui affirmait qu'il y a plus de maux que de bien ou de plaisir en ce monde. Et en effet, Rousseau a dit, bon, certes, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et l'Émile, finalement, nous dit que vivre, c'est certes agir, mais c'est aussi souffrir. Donc, il y a cette idée selon laquelle les souffrances vont être présentes tout au long de la vie. Mais il y a ce plaisir intangible du simple fait d'exister. Et ça, c'est, disons, quelque chose qui est au-delà de la polarité du souffrir et du jouir, du plaisir et de la douleur. Alors, c'est là toute la difficulté. Est-ce que c'est un état neutre? En fait, c'est un état qui n'a rien à voir avec l'apathie stoïcienne, par exemple. Même si Rousseau joue avec le stoïcisme en disant, par exemple, oui, même dans un cachot, même à la Bastille, je serais encore capable de rêver et donc de jouir de moi. Mais c'est une situation limite. Au fond, Rousseau rêve avec beaucoup plus de bonheur sur l'île de Saint-Pierre parce qu'il est dans ces conditions où il peut retrouver simplement cette affection primitive qui est sa sensibilité. Alors, au fond, de quoi jouit-on dans le sentiment d'existence? On jouit de sa sensibilité, dont Rousseau a toujours montré qu'elle est à la fois physique et morale, mais dont, dans les rêveries, il exprime surtout, finalement, en un sens, la forme physique, puisque, comme il le dit, justement, il se libère de certains aspects de sa sensibilité morale.
Peut-on aller jusqu'à identifier ou établir un parallèle entre le sentiment de l'existence chez Rousseau dans cette cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire et le cogito cartésien qui, avec la formule qui associe l'existence même à la pensée, trouve un point de départ à sa philosophie, ce qu'il en va de même.
Alors c'est très intéressant les comparaisons avec Descartes parce qu'il y a des points de continuité intéressants mais surtout des points de rupture. Alors ce qui est certain c'est que Rousseau dénoue totalement l'idée d'une méthode, l'idée d'un système. C'est le protocole de lecture qu'il donne dès la première promenade. Autrement dit, bon, s'il avait poussé jusqu'au bout sa méditation, confession, rêverie, hein, je ne reviens pas ici sur toutes les distinctions qu'il faudrait faire entre ces trois concepts, il aurait dû procéder avec ordre et méthode, hein, même si ce n'est pas avec esprit de système, puisqu'il a congédié l'esprit de système, comme beaucoup de ses contemporains. Néanmoins, dit-il, il n'en est plus capable, et donc il abandonne l'ordre, il abandonne la méthode. Et donc il ne tiendra, dit-il, que l'informe journal de ses rêveries, appliquant un baromètre à son âme. Or, précisément, que signifie appliquer son baromètre à son âme? Il s'agit plutôt de sentir ses opérations, sentir les modifications de son âme. Alors, le cogito que Rousseau découvre n'a rien à voir avec le « je pense donc je suis ». Il est même en un sens libéré du « je pense, je veux, je sens, je perçois » que Malebranche découvrait disons au titre des modifications de l'âme, hein, dans le sentiment intérieur de l'existence. Ce que Rousseau découvre au fond du sujet, c'est encore une fois, c'est un sentiment. Hein, c'est pas une
pensée.
Non,
mais ils sont pas identiques de nature, mais est-ce que du point de vue de la méthode même de leur pensée, même si dans les rêveries elle est particulière, il le dit, elle n'est pas systématique, est-ce que le sentiment de l'existence que décrit Rousseau joue le même rôle dans la philosophie de Rousseau que le cogito chez Descartes?
Oui, alors, disons qu'en fait, il y a bien quelque chose que l'on découvre qui est fondamental et qui relance en quelque sorte la dynamique de l'amour de soi. Hein, ce qui est, disons, l'équivalent hein, chez Rousseau, disons, le principe du sujet, hein, on pourrait dire, puisque Rousseau emploie ce terme principe, mais principe ici veut dire passion, passion dominante. Le principe du sujet, c'est l'amour de soi. Et donc, dans l'insularité du Nil, Rousseau se replie sur cette insularité de l'amour de soi, et donc il jouit de cet amour de lui-même, son désir de se conserver, son désir de bien-être, qui est parfaitement légitime, une fois qu'il est libéré, justement, de l'amour propre qui compare, qui veut toujours surpasser, qui veut aussi se justifier. Donc, une fois abandonné tous les mots associés à l'amour propre, il peut jouir de lui-même. En ce sens, en effet, il y a bien une analogie, mais la méthode est très différente. Alors, on pourrait poursuivre les comparaisons. Il faudrait plutôt rapprocher, sans doute, hein, ces textes des lettres à Élisabeth, ou Descartes. Où Descartes donne plutôt des conseils, de nonchalance, hein, pas de méditation trop sérieuse, plutôt justement se promener dans la nature, jouir de la contemplation, des oiseaux, de la verdeur, des arbres, etc. Voilà, c'est plutôt dans cette thérapeutique de l'âme que Rousseau s'inscrit, cette jouissance de l'union, même si Rousseau nous dit hein, dans les rêveries que son corps n'est plus qu'une dépouille, en un sens, il est presque prêt déjà à la quitter, hein, dans l'imminence de la mort, son corps est en un sens déjà presque parti, mais dans cet état, il peut encore jouir d'une certaine manière de l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire de la sensibilité.
Mais il y a quelque chose comme une provocation aussi dans le fait d'assigner l'existence à un sentiment. On est en plein milieu du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui chante le règne de la raison et du raisonnement, pas forcément systématique d'ailleurs, mais vraiment qui célèbre les forces de la raison, a non seulement donc célébré le sentiment de l'existence, mais aussi à en faire, disons, le point de départ d'une certaine forme d'être au monde. De ce sentiment va naître peut-être l'importance de l'esthétique en philosophie, qu'on va retrouver ensuite chez Kant quelques années plus tard, et puis aussi même le courant du romantisme, non, qui va choisir de suivre la voie du sentiment davantage que celle de la raison.
Oui, alors la postérité de Rousseau est absolument remarquable, en Allemagne notamment, le Sturm und Drang, mais tout ce qui relève du romanesque et du romantique. Hein, Rousseau utilise ces deux termes hein, dans la cinquième promenade, romanesque et romantique, pour décrire le paysage notamment environnant. Alors cette rêverie va avoir une postérité absolument prodigieuse, mais elle va donner lieu aussi à un léger dévoiement, parce que finalement, ce qui va retenir l'attention, ce sont aussi les tortures de la subjectivité qui s'épurent dans la nature, et finalement, Rousseau ici est libéré de ces tortures et de ces tourments, ou en tout cas, il prétend pouvoir être libéré grâce à cette insularité qu'il recrée dans la jouissance de soi, hein, bercé par le flux et reflux. C'est très intéressant parce que ce flux et reflux ne lui donne pas l'occasion d'une réflexion sur le temps qui passe passe en général, sur le temps fugitif, sur la vie fugitive, comme Lamartine par exemple, voilà, autant suspend ton vol, etc. Justement, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que Rousseau dit oui, à l'occasion, je pense vaguement à ce thème classique de la philosophie, et d'ailleurs il l'avait annoté sur son exemplaire de Montaigne, hein, tout est en flux.
Hein, bah, il le dit quand même, il dit tout est dans un flux continuel sur la Terre, rien n'y garde une forme constante et arrêtée, nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles, toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a là rien de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu, etc. Il va jusqu'à dire « Je voudrais que cet instant durât toujours, car comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après ?» Il y a quand même cette idée que le flux et le reflux constituent le monde dans lequel lui est ancré, lui vit, hein, c'est pas simplement la manière de recevoir le flux, le reflux de l'eau qu'il contemple, mais aussi quand même l'interrogation quant à ce qu'il est, non pas qu'il est, au sein de ce flux et reflux universel, quasiment cosmique.
Oui, alors on pourrait remonter à Héraclite, hein, Pantare, tout cool, mais en fait, Rousseau pense surtout à Montaigne. Hein. Comme je le disais, il avait annoté hein, les essais, et il avait relevé hein, tout est flux. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette formule, tout est flux? Ce que Rousseau en fait ici, c'est pas une méditation sceptique sur le fait qu'il n'y a pas de critères de vérité ou que nous sommes incapables d'accéder à la connaissance. C'est une question qui ne l'occupe plus ici. Ce qui l'intéresse, c'est au contraire le type de jouissance passive que l'on peut se procurer en ayant mis entre parenthèses les facultés de l'agent actif et rationnel, hein, l'agent calculateur, l'agent analytique. Donc, de quel type de jouissance est-on capable? C'est une jouissance du temps. Hein, et dans le texte que vous avez lu, la question de la temporalité est fondamentale. À la fois, Rousseau dit « je suis comme un dieu hein, » dans cette autosuffisance, hein, « je touche à l'éternité hein, »,« je suis aussi heureux qu'un dieu, comme un dieu parmi les hommes », en un sens, hein, c'est la vieille formule qui est ici reprise. Mais il ne faut pas voir là une sorte d'hubris absolue de prétention à la divinité. Au fond, ce qui se passe, c'est quelque chose de très subtil entre la stabilité et l'instabilité. Rousseau nous dit « mon âme a trouvé son assiette ». C'est très curieux, justement, dans le flux et reflux, c'est-à-dire au moment où le corps est bercé, où il est constamment altéré dans son mouvement doux et répétitif, eh bien l'âme ici trouve une assiette. Alors, elle ne se projette plus dans l'avenir, elle ne se souvient plus du passé, elle jouit d'un présent pur, et c'est ça le bonheur qui dure, par opposition au plaisir qui passe. C'est assez paradoxal que dans ce présent enfin trouvé, dans la plénitude de ce présent, on puisse trouver un bonheur qui dure, voilà, une assiette de l'âme qui arrive enfin à jouir durablement d'elle-même.
Et c'est vrai qu'il trouve là presque par hasard, en tout cas de manière non volontaire, un état qui est décrit, vous l'avez dit, par des philosophes depuis le début de l'histoire de la philosophie, qu'on l'appelle la sagesse, la béatitude ou autre, et ça arrive à lui dans cet état de rêverie en fait.
Ce qui est très original, c'est que Rousseau reprend des topoi hein, de l'histoire de la philosophie depuis son origine, aussi des topoi qu'on pourrait voir aussi dans une certaine littérature religieuse ou peut-être même mystique, mais il les transforme. C'est-à-dire qu'au fond, encore une fois, il ne s'agit pas d'apathie, loin de là, hein, il n'y a pas d'apathéia ici. Au contraire, il y a une forme de pathos, hein, c'est-à-dire de sentiments qui s'éprouvent et qui, au fond, est une jouissance, encore une fois, du temps, du rythme, du cycle qui est toujours reconduit, reproduit à l'identique. Et donc, il y a ce jeu de l'identité et de la dissemblance qui fait l'étoffe même du temps et du sujet.
On va retrouver la rêverie dans un instant, puisqu'elle accompagne finalement Rousseau tout au long de ses 3 promenades et tout au long de ses 10 promenades, puisque c'est le titre du recueil qu'elle compose. Mais si on avance un peu dans la lecture, car il le faut, c'est l'inspecteur, hein, qu'on arrive à la 6e promenade, la rêverie persiste, mais d'autres thèmes sont abordés. On retrouve quand même le Rousseau moral, le Rousseau qui s'interroge sur les conditions de la liberté et sur les conditions de possibilité d'un acte juste. Retrouve donc ce cœur d'or, ce cœur en or qui a ouvert cette émission. Écoutez.
Si j'étais resté libre, obscur, isolé, comme j'étais fait pour l'être, je n'aurais fait que du bien. Car je n'ai dans le cœur le germe d'aucune passion nuisible. Si j'eusse été invisible et tout-puissant comme Dieu, j'aurais été bienfaisant et bon comme lui. C'est la force et la liberté qui font les excellents hommes. La faiblesse et l'esclavage n'ont jamais fait que des méchants. Si j'eusse été possesseur de l'anneau de Gigès, il m'eût tiré de la dépendance des hommes et les eût mis dans la mienne. Je me suis souvent demandé, dans mes châteaux en Espagne, quel usage j'aurais fait de cet anneau, car c'est bien là que la tentation d'abuser doit être près du pouvoir. Maître de contenter mes désirs, pouvant tout sans pouvoir être trompé par personne, qu'aurais-je pu désirer avec quelque suite? Une seule chose, c'eût été de voir tous les cœurs contents. L'aspect de la félicité publique eût pu seul toucher mon cœur d'un sentiment permanent, et l'ardent désir d'y concourir eût été ma plus constante passion. Toujours juste sans partialité, toujours bon sans faiblesse, je me serais également garanti des méfiances aveugles et des haines implacables, parce que, voyant les hommes tels qu'ils sont et lisant aisément au fond de leur cœur, j'en aurais peu trouvé d'assez aimables pour mériter toutes mes affections, peu d'assez odieux pour mériter toute ma haine, et que leur méchanceté même m'eût disposé à les plaindre par la connaissance certaine du mal qu'ils se font à eux-mêmes en voulant en faire à autrui.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et une composition musicale de Jean-Jacques Rousseau lui-même, mais oui, interprétée ici par Michel Portal, à l'occasion de la troisième promenade que nous effectuons à la compagnie de Rousseau de son texte Les Rêveries du promeneur solitaire cette semaine, en compagnie de la philosophe Céline Spector. Nous venons d'entendre un extrait de la sixième promenade dans laquelle il est question donc de des conditions de possibilité de l'acte juste, et on y voit une référence ici aussi à un texte de philosophie classique, c'est Platon qui lui-même prend l'exemple de l'anneau de Gigès. L'anneau de Gigès, c'est un anneau qui nous permet d'être invisible en une seconde, et Platon raconte cette histoire pour essayer de voir comment le comportement des gens changerait s'ils étaient invisibles. Est-ce qu'ils se mettraient à commettre des crimes ou à des vols ou autres gestes punis par la société, ou bien est-ce qu'ils seraient foncièrement bons? Rousseau lui est très clair, il dit « Mais moi, si j'avais l'anneau de Gigès et que je devenais invisible, je serais absolument bon. » Là encore, il ne doute pas de son innocence et de sa bonté, Céline Spector.
Alors, c'est très intéressant la manière dont Rousseau métamorphose totalement le mythe de l'anneau de Gigès que Platon avait déjà repris à Hérodote. Alors, pour le résumer à l'extrême, dans La République, Platon évoque cet anneau découvert dans une tombe héroïque par Gigès, un berger lydien, qui lui permet, lorsqu'il tourne le chaton de sa bague, de devenir invisible et donc impuni. Et l'expérience de pensée que nous pouvons faire à cette occasion, c'est finalement que ferions-nous si nous bénéficions de l'impunité? Et évidemment, serions-nous justes, serions-nous injustes? Et Gigès, évidemment, va convoler avec la reine, va dans le palais du roi pour se substituer à lui. Autrement dit, il fait ce qu'on peut supposer être le désir commun des mortels, le pouvoir, les femmes, la richesse, la gloire. Rousseau en fait tout autre chose. Rousseau en fait tout autre chose, car l'anneau de Gigès, tel qu'il l'expérimente lui-même, lui permet de retrouver une forme, sinon d'invisibilité, du moins d'anonymat. Ce qui le libère, au fond, du fardeau de la célébrité. Rousseau est un homme extrêmement célèbre. Et dans les conditions d'hostilité qu'il reconstitue, le complot universel, l'ostracisme, l'exil, la proscription à laquelle il se croit soumis, le fait d'être célèbre est un tort supplémentaire, c'est un poids, c'est un fardeau, c'est-à-dire qu'il a l'impression que tous les gens qu'il croise, sans les connaître, le reconnaissent et sont circonvenus par ses ennemis. Ce qui fait pour lui la vie morale, ce qui fait que la vie morale pour lui devient un cauchemar. La vie morale devient un cauchemar qui est en quelque sorte hanté par le piège, le leurre, la dissimulation, l'instrumentalisation possible. Chaque fois qu'il veut faire une bonne action, il a l'impression qu'au fond, ses ennemis sont postés à droite ou à gauche et se débrouillent pour lui tendre des pièges et pour retourner sa bonne intention, sa bonne action en catastrophe.
Bon, ça, c'est pas de la postérité, c'est de la paranoïa, là, pour le coup.
Bon, alors évidemment, on peut le diagnostiquer ainsi, mais encore une fois, et je crois que ça a été dit dans la première émission, Rousseau a de fait subi un certain nombre de persécutions réelles.
Il avait des raisons d'être paranoïaque.
Voilà. Donc, au-delà de la question de la paranoïa, ce qui est intéressant, c'est que Rousseau s'imagine, de manière fantasmatique, grâce à cet anneau, délivré de cette célébrité qui est devenue un fardeau pour lui. Et donc, que ferait-il dans cette condition, dans cette condition d'anonymat, ayant par ailleurs le pouvoir de voir au fond des cœurs, et donc de ne plus être trompé, manipulé dans le soupçon perpétuel? Eh bien, il serait pleinement bon, en effet, c'est-à-dire qu'il voudrait voir tous les cœurs contents. Il serait en quelque sorte désireux de réaliser la félicité universelle, il voudrait que tout le monde soit heureux, au fond c'est ça dont il a envie. Il dit qu'il serait d'une bienveillance universelle et parfaitement impartiale et désintéressée. Donc voilà, au fond c'est ça qu'il a en lui, le désir d'une bienveillance universelle, impartiale et désintéressée. Et ce n'est pas quelque chose comme de la vertu qui lui coûterait, qui lui demanderait un effort, un sacrifice, c'est son penchant. C'est son inclination spontanée. Il aime voir les cœurs contents et c'est un plaisir partagé.
Mais on a envie de lui répondre qu'il pouvait très bien essayer, se déguiser. Aujourd'hui, on lui dirait de prendre un pseudo sur Twitter et d'essayer d'aller semer le bien universel pour voir si c'est si simple.
Il était impossible pour Rousseau de se dissimuler. Et donc, c'est vrai que dans les rêveries, ça revient constamment. Où trouver un asile sur cette terre? Un instant, c'est au bord d'un lac, il se croit dans un asile secret, dans la nature, qui finalement l'entoure et lui donne l'impression d'un asile. Rousseau est comme un réfugié. C'est un réfugié nomade qui, au fond, essaye sans cesse de se mettre à l'abri d'une persécution qu'il juge universelle. Et donc, l'anneau de Gigès lui permet de se libérer de la malveillance de ses ennemis et du complot universel dont il est la victime ou dont il se croit la victime. Si bien qu'au fond, il libère, en un sens, l'acte moral de quelque chose comme l'hypothèse du malin génie cartésien. Une sorte de mélange entre l'anneau de Gigès et le malin génie. Parce que Rousseau considère que le complot, ça fait comme un malin génie. Le malin génie est toujours là pour détourner les intentions, pour finalement faire que l'intention morale vertueuse se retourne dans
oui,
le monde.
Oui, c'est ça. Le malin génie, c'est la société, les hommes qui l'entourent, en
Exactement.
Fait. Un homme seul est un homme bon.
Mais disons que si on pouvait reconstituer l'hypothèse fictive de Robinson Crusoe, que Rousseau a exploré par ailleurs dans Émile, si on pouvait reconstituer cette hypothèse fictive, alors oui, il pourrait en tout cas lui, en tant qu'être singulier, exprimer ce qui est le fond de sa nature et qui est sa bonté naturelle.
Mais à quoi servirait-il d'être bon si on est seul ?
Alors, bon, la notion de solitude, comme vous le savez, est assez compliquée chez Rousseau. Il se décrit constamment comme un promeneur solitaire, mais au fond, les rêveries elles-mêmes sont assez peuplées. Moins peut-être que les confessions, mais en tout cas, elles sont assez peuplées. Et donc, les occasions de faire le bien sont là. Par exemple, le début de la sixième promenade, Rousseau décrit une promenade qu'il a l'habitude de faire et un crochet qu'il fait sans s'en apercevoir. Et c'est en revenant sur ce détour machinal et inconscient, finalement, qu'il analyse les raisons qui le conduisent à se détourner de sa route habituelle. Et c'est là qu'il réalise qu'il a l'habitude de faire l'aumône à un jeune boiteux qui lui délivre un petit babil et qu'il appelle Monsieur Rousseau. Et finalement, il dit, bon, plusieurs choses. Il dit d'une part, faire l'aumône m'était devenu un devoir, un onéreux assujettissement. C'était devenu un poids insupportable. J'aimais bien faire le bien spontanément, mais dès lors que c'était une obligation, ça devenait une corvée. Ça nuisait à mon désir d'indépendance. Et puis d'autre part, l'autre crainte, c'est que ce boiteux lui-même soit circonvenu.
Et Rousseau dit, le reconnaît, il dit qu'il l'appelle Rousseau, ça
voilà,
le gêne,
ça
de savoir
voilà,
reconnu
exactement.
Par ce monde.
Et donc finalement, il est gêné parce qu'il croit qu'encore une fois, sa bienveillance va être circonvenue. Et au fond, il va être, comme il le dit, le bureau d'adresse de tous les souffreteux. Autrement dit, Rousseau se sent victime d'un abus de confiance. Et alors que dans l'Émile, Émile devait devenir paladin des causes perdues, se faire le défenseur des indigents et leur homme d'affaires, ici Rousseau dit non, je ne peux plus me faire l'homme d'affaires des indigents parce qu'au fond, on abuse de ma confiance. Et donc l'aumône elle-même devient problématique.
La sixième promenade est la plus courte des trois dont nous parlons aujourd'hui. Si on avance un tout petit peu dans la lecture avant de passer à la septième promenade, on y découvre qu'en fait, Rousseau n'a pas très envie de garder l'anneau. Il dit tout bien considéré, je crois que je ferais mieux de jeter mon anneau magique avant qu'il ne fait faire quelques sottises. Si les âmes s'obstinent à me voir tout autre que je suis et que mon aspect irrite leur injustice, pour leur ôter cette vue, il faut les fuir, mais non pas m'éclipser au milieu d'eux. Donc finalement, la technique de l'anneau n'est pas assez radicale par rapport à la morale qu'il prône.
Bon, disons qu'il y a beaucoup d'humour hein, dans le texte de Rousseau. C'est même quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on pourrait croire que c'est un texte mélancolique. Mais en fait, non. Hein, il y a plusieurs moments où Rousseau se remémore des moments drôles, où lui-même manifeste un véritable humour, comme c'est le cas là. Mmh. Il jette son anneau. Bon, voilà, avant de faire quelques sottises. Et on peut penser aussi aux sottises. Bon, il aime les femmes, hein, donc pourquoi pas. Mais je crois que ce qui est intéressant ici, c'est plutôt le fait que Rousseau veut fuir les hommes pour ne pas les haïr. Donc ça, il le dit sans cesse, hein, il veut pas que son cœur soit en quelque sorte rongé par la haine. Alors parfois, il les méprise quand même, malgré tout. Mais la meilleure stratégie à ses yeux, c'est quand même de les fuir. Hein. Fuir, c'est mieux que haïr ou mépriser. Et donc, c'est ce qu'il adopte comme stratégie. Et finalement, la vie morale pour lui devient une vie d'abstention. Hein. Il reconsidère même la définition de la liberté. La liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, à la mesure de sa puissance et de ses forces naturelles, c'est ne pas faire ce que l'on ne veut pas. Et donc finalement, on arrive à la fin de la vie de Rousseau à une morale négative, à une morale minimale, qui est la seule morale possible au moment où Rousseau est devenu un paria, où la vie morale est devenue un songe, et où finalement, toute action risque d'être pervertie par la manipulation.
Oui, il faut connaître le contexte pour comprendre cette affirmation, parce que fonder la morale sur la fuite, ça peut aussi être perçu comme étant la preuve d'une grande lâcheté.
Alors, il ne s'agit pas de fonder la morale sur la fuite. Hein. Il faut quand même un peu nuancer. C'est-à-dire qu'il faut fuir les hommes pour ne pas les haïr. Ça, c'est un premier point. Mmh. Et puis, il faut par ailleurs, même à un moment, Rousseau dit qu'ils disparaissent sous terre comme des taupes. Une sorte de fantasme exprimé ici de la disparition de ceux qui l'ont fait souffrir. Mais la morale elle-même, elle devient quelque chose de très, en effet, de très minimal. Alors, lâcheté, je crois que c'est un peu difficile de qualifier Rousseau ainsi après tout ce qu'il a subi. Quand même. Hein. Depuis 1762, il a été décrété prise de corps. La nuit même, il a dû partir. Enfin bon.
C'est pour ça qu'il faut connaître le contexte pour comprendre cette fuite. Que cette fuite n'est pas forcément une lâcheté, plus une protection.
Alors, il a fui d'abord. Hein. Il a fui d'abord pour ne pas être arrêté. Hein. Il était décrété de prise de corps. Ses livres ont été brûlés. Hein. À Paris, mais aussi à Genève. Et il a été plusieurs fois, on lui a refusé l'exil en Suisse à plusieurs reprises. Donc il n'est pas du tout comme un voyageur tranquille qui s'arrêterait ici ou là. Son exil est forcé, hein, sa persécution est réelle. Et ça, il faut insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, on lit ça en disant « Oh, il est totalement paranoïaque ». Il est en effet paranoïaque, mais comme vous le disiez, pour de bonnes raisons.
Il trouve dans la 7e promenade un lieu de consolation qui est non seulement la nature très présente tout au long de ses rêveries, mais surtout un certain rapport qu'il entretient avec la nature qui consiste à ramasser, observer, classer et donc à s'adonner à cette activité si particulière qu'est la botanique. Il écrit hein, « C'est la chaîne des idées accessoires qui m'attache à la botanique. Elle rassemble et rappelle à mon imagination toutes les idées qui la flattent davantage, les prés, les eaux, les bois, la solitude, la paix surtout. Et le repos qu'on trouve au milieu de tout cela sont retracés par elle incessamment en ma mémoire. » Elle me fait oublier les persécutions des hommes, leur haine, leur mépris, leurs outrages, et tous les maux dont ils ont payé mon tendre et sincère attachement pour eux. Elle me transporte dans des habitations paisibles au milieu de gens simples et bons, tels que ceux avec qui j'ai vécu jadis. Enfin, elle me rappelle et mon jeune âge, et mes innocents plaisirs, elle m'en fait jouir de rechef, et me rend heureux bien souvent encore au milieu du plus triste sort qu'ait subi jamais un mortel. » La botanique est sa voie de salut ici, c'est l'inspecteur.
Oui, alors la botanique, c'est la planche de salut, au sens propre. Hein. C'est-à-dire que Rousseau accepte, hein, comme Montaigne avant lui, là encore, et puis comme bien d'autres, hein, l'idée qu'il faille de la diversion, du divertissement. Alors pas du divertissement au sens, disons, que l'on emploierait aujourd'hui, mais vraiment l'idée sur laquelle l'attention doit être fixé vers des objets extérieurs pour éviter que l'esprit rumine.
Donc on sort de la rêverie alors avec la botanique.
Il y a deux choses. Hein. Il y a la rêverie à propos de la botanique et puis il y a l'herborisation elle-même. Hein. Il ne faut pas confondre les deux. Rousseau se souvient et en un sens, cette rêverie a pour objet la botanique qui elle-même n'est pas forcément une rêverie. Rousseau en donne plusieurs versions. Il y a la botanique telle qu'il l'a pratiquée en 1763 quand il a découvert ce plaisir hein, près de Neuchâtel. Donc, il découvre ce plaisir avec du Pérou et deux médecins. Et il découvre que la botanique suscite en lui un engouement. Alors, quel type d'engouement ? Il ne s'agit pas tellement du plaisir intellectuel, de la classification, de la taxinomie des végétaux, même si, j'y reviendrai peut-être, Rousseau connaît bien les choses et il les connaît de mieux en mieux, il connaît très bien Linné, hein, dans la promenade qui nous occupe, il se transporte avec le gros livre de Linné sous le bras et sa loupe à la main, donc c'est pas simplement l'extase de la botanique, c'est aussi une connaissance hein, du monde végétal, donc il s'intéresse à la structure et à l'organisation des végétaux, dans le détail, mais au fond, ce n'est pas pour le plaisir de classer, c'est pas le plaisir de la taxinomie, c'est pas le plaisir analytique qui l'intéresse. C'est aussi le plaisir de la nature elle-même. Alors, est-ce que c'est le plaisir du spectacle de la nature ou des merveilles de la nature? Alors ça, c'est une question un peu plus délicate. Parce que dans l'Émile, Rousseau, dans la profession de foi du vicaire savoyard, évoquait une critique hein, d'un auteur hollandais, Nieuwentiet, hein, qui avait écrit un ouvrage intitulé « L'existence divine démontrée par les merveilles de la nature ». Et il reprochait à cet auteur, en fait, de s'intéresser trop aux détails. Et du coup, de perdre l'harmonie, l'ordre, l'accord du tout. Désormais, Rousseau, en un sens, accepte le détail. Hein, et en un sens, son esprit ne peut plus s'élever au principe, dit-il, hein, son entendement fatigué, cette rêverie, disons, cette réflexion l'attriste, le fatigue. Et donc, plutôt que de s'envoler vers les principes, si l'on ose dire, ou de réfléchir aux principes, il va s'intéresser aux détails. Et c'est ça que l'étude des fleurs, l'étude des végétaux va lui rendre possible.
Et on sent aussi le plaisir gourmand, délicieux à décrire cette nature. Et un des plaisirs qu'il trouve à faire de la botanique, c'est aussi de mettre des noms sur ce qu'il trouve. Hein. Il part de la fourchure des deux longues étamines de la brunelle, le ressort de celle de l'ortie ou de la pariétaire, l'explosion du fruit, de la balsamine et de la capsule du buis, mille petits jeux de la fructification que j'observais pour la première fois me comblaient de joie.
Oui, alors Rousseau est un observateur. Et ça, il faut insister, hein, au-delà de la méthode empiriste qu'il a mise en œuvre plus tôt, et notamment dans l'Émile, Rousseau dit, hein, dans un petit texte qui s'appelle « Mon portrait », « Je suis observateur et non moraliste. Je suis le botaniste qui décrit la plante. » Donc le plaisir de la description, le plaisir de l'observation, hein, tout simplement du regard. Alors c'est pas une contemplation gratuite, hein, mais c'est vraiment la description elle-même. Et Rousseau va écrire 8 lettres de botanique hein, qu'il adresse à une de ses correspondantes, qui sont extrêmement savantes, hein, même si elles sont pas extrêmement érudites, mais savantes et pédagogiques. Et il écrit même un dictionnaire de botanique. Enfin en tout cas il le commence à peu près à la même époque, sans doute 1777, avec une histoire de la botanique, avec de nombreuses entrée, avec une très belle entrée sur les fleurs. Il a des thèses hein, sur les classifications des végétaux. Il est plus proche de Linné, par exemple. Hein. L'idée que les classifications doivent être naturelles et non artificielles. Enfin, Rousseau a un savoir botanique. Hein. On peut dire qu'il a un véritable savoir botanique. Ce n'est pas du tout simplement un amateur. Mais par ailleurs, ce n'est pas ça qu'il recherche ici dans cette rêverie, bien sûr. Ce qui l'intéresse ici, c'est évidemment de guérir son âme, d'apaiser son angoisse.
C'est ça, il y a une consolation quand même.
Voilà, c'est la consolation dans la nature. Donc ce n'est pas les merveilles de la nature ici pour établir l'existence de Dieu. Hein, ce n'est plus la profession de foi du vicaire savoyard. Et voilà, il ne suit plus l'abbé Pluche non plus, hein, le spectacle de la nature. Ce qui l'intéresse, c'est voilà, cette fonction apaisante. Hein, il se dit ravagé par l'angoisse quand même au début des rêveries. Et donc pour apaiser son angoisse, il n'y a rien de mieux que de fixer son attention sur ces petites choses charmantes et colorées que sont les fleurs et les végétaux qui lui donnent qui lui procurent un plaisir inestimable en raison du charme, du calme des passions. Et il dit c'est l'occupation, la meilleure occupation pour un oisif désœuvré.
Il est très attentif à l'état dans lequel il est en réalité. Ce que vous disiez sur le flux et le reflux là, et les conséquences que ce rythme pouvait avoir sur son âme. Ici, vous parlez de l'état de jouissance. C'est ça, en fait. C'est faire de la botanique ou s'adonner à la botanique. Nous plonge dans un certain état qui, à bien des égards, n'est pas si distant de la rêverie, d'ailleurs. Puisque vous dites que ce n'est pas qu'une entreprise de classification et de connaissance. C'est aussi une manière d'être, une manière de réfléchir ou de ne pas réfléchir qui, en fait, continue l'acte de rêverie.
Je crois que l'herborisation permet à Rousseau d'aller aussi loin que possible dans la connaissance du singulier. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Rousseau a, comme je le disais, abandonné l'optique systématique de la théorie de l'homme qui était celle de l'Émile. Son but n'est plus de faire une anthropologie hein, ou une science de l'homme, mais il veut aller aussi loin que possible dans l'appréhension du singulier. Pas seulement par la connaissance, mais encore une fois par le sentiment. Et la botanique, c'est idéal. Dans l'herborisation, Rousseau dit à la fois, il a le journal de ses rêveries, hein, c'est comme un journal quand il ouvre son herbier, hein, ça lui rappelle toutes les promenades à l'occasion desquelles il a cueilli ses plantes. Donc il y a cette dimension de journal qui étend dans la durée. Et puis il y a aussi l'idée que c'est un instrument d'optique qui lui rappelle le paysage dans lequel il a été heureux. Et donc la réminiscence de la rêverie le replonge dans cet état de charme, hein, de plaisir doux, et non pas de plaisir vif, car il ne peut plus profiter de la vitalité d'un plaisir fort, mais d'un plaisir doux et calme, qui finalement est ce à quoi il peut aspirer de mieux au moment des rêveries.
Et il a toujours, en ce faisant, il est en cohérence totale avec le reste de son œuvre, parce qu'il a quand même toujours parlé de l'homme, de la nature. C'est la nature de l'homme qu'il essaie de sauver contre un homme civilisé ou un homme en société.
Oui, et d'ailleurs, il y a eu un texte qui a été lu où Rousseau continue avec cette opposition qui remonte au moins au second discours, c'est-à-dire voilà, l'homme sauvage, l'homme de la nature, il est clos sur lui-même, il régit par l'amour de soi et la pitié, tandis que l'homme civilisé, il est toujours hors de lui-même. L'amour propre, l'ambition dévorante, la fureur de se distinguer, le conduit au tracas perpétuel de la vie civile. Il est donc toujours hors de lui, il ne sait jamais jouir de lui et du présent. Et donc, en un sens, Rousseau, bien sûr, ce n'est pas l'homme sauvage, ce n'est pas l'homme de la nature, il n'y a pas de primitivisme dans les rêveries, mais il y a quand même cette idée selon laquelle on peut échapper à ce constant être hors de soi, cet être aliéné à soi, qui est l'état habituel de l'homme civilisé.
On a commencé avec le cœur en or et on se quitte avec l'homme de la nature.
There was a boy, a very small and shadow. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy inside a while, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn, it's just to love and be loved in return.
Merci beaucoup Céline Spector d'être venue nous parler de Rousseau aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs donc à vos ouvrages, Rousseau et la critique de l'économie politique aux presses universitaires de Bordeaux, Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison, où il est question de Rousseau également, paru au Seuil, et enfin Rousseau, les paradoxes de l'autonomie démocratique, aux éditions Michalon. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
De quelle actualité allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bien, ça fait déjà quelques semaines que je pose ce genre de questions. Qu'est-ce que lire ? Qu'est-ce qu'écrire ? Qu'est-ce que composer ? Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en remettre une couche avec une question encore plus vaste, encore plus massive, incontournable. Qu'est-ce que créer ? Pour la poser, heureusement, je suis aidée, et pas par un, mais par plusieurs auteurs. Baudelaire, Barthes, Simmel, Freud ou encore Marx, tous sont rassemblés en une anthologie tout juste parue autour d'un champ particulier, la mode.
Si vous le voulez bien, pour commencer cet entretien, je prendrai le point de vue le plus simple et je crois le plus général, celui du monsieur dont je suis, qui s'étonne quelquefois de voir sa femme adopter d'enthousiasme telle ou telle position de la taille, telle ou telle longueur de jupe, et qui répond à toutes les questions, c'est ainsi, ça se fait, c'est la mode. Alors, naïvement, le monsieur s'étonne et se dit, pourquoi est-ce que c'est la mode ?
comment se crée la mode? Déjà, on se posait la question en 1949 dans l'émission La Tribune de Paris. Mais en fait, on se posait la question même bien avant, à lire ses textes. On se rend compte par exemple que Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne, paru au cours de l'année 1863, décelait déjà, à travers toute une série de planches de mode, la variation essentielle de la mode, son essence profondément instable, fluctuante, nouvelle. On se rend compte aussi avec Théophile Gautier qu'en 1858, dans un court texte de la mode, qu'il voyait dans les costumes modernes la beauté propre à la mode. Vêtements, habits, costumes, tous ces termes pour dire la mode révèlent bien que la mode en tant que telle, en tant que concept, soulève déjà par elle-même de nombreux problèmes. Alors pourquoi l'associer à celui de la création? Pourquoi se demander qu'est-ce que créer avec elle? Eh bien, c'est parce qu'avec elle, avec la mode, que tout le monde peut observer partout, que tout le monde peut pratiquer, porter, expérimenter, éprouver, se pose de manière concrète la question de la création. Comment la mode se crée-t-elle? S'invente-t-elle ou s'établit-elle? Advient-elle de nulle part ou de quelques personnes ou d'un seul esprit? S'impose-t-elle à tous avec sa logique ou est-elle le fruit d'une décision concertée? Est-elle pure nouveauté ou reprise de l'époque, de ses mœurs, de ses goûts?
J'ai appris la chose la plus importante dans l'élégance, le sens du dépouillement. J'ai appris que l'on ne fait jamais une robe en ajoutant quelque chose, mais toujours en retranchant quelque chose. Car jour après jour, dans le studio du couturier, la robe revient vers son créateur. Il faut toujours que celui-ci enlève quelque chose, simplifie et travaille non pas dans l'ornement, mais seulement dans la masse, dans l'architecture de sa robe.
Se demander qu'est-ce que créer grâce à la mode, on pourrait dire que c'est comme faire une robe selon Pierre Balmain. Comme le rappelle le couturier, c'était dans une conférence donnée en 1954, ce n'est pas en rajouter, faire une robe, ce n'est pas l'orner, ce n'est pas rajouter par exemple la question de la mode à celle de la création, c'est en fait revenir à la question simple de ce qu'elle est. C'est donc au contraire la dépouiller. Qu'est-ce que créer? La question elle aussi ne cesse de revenir dans la tête des philosophes et des artistes, comme donc la robe en studio pour être retouchée, pour être dépliée. Et les philosophes, eux, y répondent par tout un ensemble de choses, la définition de la création, les formes de la création, la fonction sociale de la création, ou encore sa place dans la culture. La création se déplie ainsi en diverses dimensions qui elles-mêmes n'admettent jamais une seule réponse, tout comme la mode, tout à la fois expression d'une époque pour Roland Barthes, ou tromperie selon Pascal, instrument de résistance ou fétiche marchand pour Marx, de quoi donc en rajouter, de quoi orner à foison. Revenir alors à la simple question de la création, c'est revenir au squelette de ce qu'elle est, c'est couper dans la masse ce qui pose question en elle, ce qui fait problème, et là est l'essence de la création que seule la coupe d'une robe semble expliciter aussi simplement. À gauche, à droite, c'est la mode, chante David Bowie. Et ce qu'elle nous indique ainsi, ce qu'elle nous explicite aussi simplement, c'est que la création, c'est au fond une question, une seule question, un paradoxe en bonne et due forme. Un coup à gauche, un coup à droite, elle ne vient pas de rien, mais elle n'est de personne. Elle est en fait de tout, mais semble advenir de nulle part. Elle est dans l'air du temps, mais surprend tout le monde. Et pire, ne plaît à personne, comme une robe, donc.
Victime de la mode, tel est votre nom de code, Géraldine.
Ah, on aurait pu passer aussi cette chanson.
Alors, l'anthologie de textes dont vous nous parliez au début.
Donc, c'est les grands textes de la mode. C'est commenté par Émilie Amen et Benjamin Simenauer. Et c'est paru aux éditions Regard. Et aussi, c'est coédité aussi avec l'Institut français de la mode. Et on peut s'y trouver dans cette double collection les grands textes du luxe commentés par Olivier Assouli.
C'est noté, Géraldine. Merci à vous. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Louis Servet qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mossin-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Georges Kless qui est à la lecture des textes, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de nos promenades rêveuses sur Rousseau et les rêveries du promeneur solitaire. Demain, je recevrai Michel Crogier pour évoquer les deux dernières promenades. D'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter l'émission et la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.